ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Marie-Christine Jacolin. Merci Marie-Christine d'avoir accepté cette invitation sur la radio Présence. Vous êtes anciennement exploitante agricole, mariée, 4 enfants, 12 petits-enfants, et vous êtes très engagée dans l'Église, dans ses différents mouvements et dans différentes missions dont vous allez nous parler, comme aumônier ou comme vous êtes passée par le travail d'infirmier. On commence depuis le début, peut-être justement un travail proche de la terre, d'une famille chrétienne pratiquante.
Oui, j'ai eu la chance de très jeune de pouvoir m'appuyer sur ma famille, sur mon école catholique et sur le scoutisme, ainsi que mon mari. Cela a été très fondateur et nous a continué à nous porter, à nous ouvrir, à structurer notre foi et notre service des autres, aussi développer notre personnalité.
Un premier passage, c'est du rural à l'urbain. Quand vous avez quitté, vous étiez donc conjointe d'un
oui.
exploitant agricole et il fallait partir donc en ville.
À un moment donné, nous avions que des céréales, nous n'étions pas éleveurs. Et donc, c'est moi pour l'éducation des enfants, et très tôt, justement, pour les mettre dans le scoutisme. Nous avons mis leurs enfants tous les week-ends, nous partions pour aller à la messe, vous savez, nous faisions facilement 15 kilomètres, voire 25, et aller-retour pour les scouts, c'était 60 kilomètres. Voilà, et nous ne regrettons pas, nos enfants ont mis eux-mêmes leurs enfants au scout, et c'est très joyeux, c'est très porteur.
Voilà. C'est ce qui est stable pour les enfants, pour l'éducation, cette éducation catholique. Mais vous me disiez de temps en temps que vous étiez plutôt sans paroisse fixe, c'est-à-dire que vous avez été dans beaucoup de lieux, de chapelles, de groupes depuis les jésuites et d'autres mouvements.
Dans le rural, nous faisions partie de l'action catholique chrétienne dans le monde rural, avec le scoutisme.
CMR.
Aussi, donc ça s'appelle le CMR, chrétien dans le monde rural. Et on a vu combien c'était très structurant. On a vu des gens qui avaient été formés par le CMR, par la JAC, et ça fait des chrétiens engagés, des chrétiens debout, des chrétiens joyeux, et toujours dans l'espérance. Voilà.
Avec un mot-clé, je crois. À cette époque, il faut que la charité soit technicienne. Vous avez déjà ce souci des autres qui va vous emmener à faire des écoles d'infirmières, puis ensuite des soins à l'hôpital ou comme aumônier. Donc c'est toute une unité de votre vie qui est là.
C'est une unité, effectivement.
Ma foi, j'y crois.
Voilà. Alors avec des hauts et des bas, mais et puis suivant les âges, les engagements, le chemin de foi, il varie suivant l'âge de la vie. Eh bien, il y a donc des périodes avec des périodes plus fortes. Nous avons été remis à nouveau frais, si on peut dire, redécouvert beaucoup de choses au cours d'une retraite dans un foyer de charité. Et encore une autre retraite dans un foyer de charité, j'ai découvert vraiment ce que c'était que le sacrement de réconciliation, le pardon de Jésus, et cela m'a marqué pour la vie, et c'était le jeudi saint au lavement des pieds, au foyer de charité de la Flatière, cette fois-ci. Et après, eh bien, nous avons continué notre petit chemin en couple aux équipes Notre-Dame. C'était important pour nous de faire... de cheminer ensemble et en couple. Voilà. Cela fait grandir notre foi. Il y a des moyens pour cela. Et c'est peut-être un petit peu exigeant, mais c'est une entraide spirituelle très forte dans l'équipe. C'est très, très beau. Et je remercie notre prêtre conseiller spirituel qui nous suit depuis tellement longtemps.
Un appel chaque fois à des engagements qui vont être diversifiés.
J'ai eu la chance d'être formée, d'être très bien formée à l'Institut catholique, à l'IERP. Justement, quand j'étais en campagne, il fallait vraiment que je fasse quelque chose.
C'est de l'exégèse, c'est de la théologie, c'est une réflexion.
C'est plus concret, c'est pas intellectuel, parce que je suis pas une grosse intellectuelle, mais c'est Institut d'études religieuses et pastorales.
Avec Bernard Rugeux, voilà, entre autres.
Voilà. Et donc, nous avons... il y a différents volets, et j'avoue que j'ai été... très très fortement marqué par l'enseignement de la christologie avec le père Duplex, André Duplex, Monseigneur André Duplex. Et à ce moment-là, on étudiait à côté, il y avait l'enseignement, puis un atelier, et j'avais choisi Teilhard de Chardin. Et ça a été une révélation, et c'est comme ça que j'ai commencé un chemin dans la spiritualité ignatienne. Et c'est mon conseiller spirituel ignatien qui, un jour, me dit... Marie-Christine, on a besoin de quelqu'un, un aumônier à l'hôpital, parce qu'il y a quelqu'un qui va partir, il ne faut pas perdre le poste. Et je crois que vous connaissez du monde, vous pouvez peut-être avoir une idée. On voit bien que l'accompagnateur spirituel est lui aussi inspiré.
Il vous provoque, il vous appelle
au nom de... Mais ça vient aussi, et pourquoi le fait-il? C'est que l'esprit lui dit, peut-être cette personne-là que tu accompagnes, il faut le lui proposer. Et c'est ainsi que je suis devenue aumônier. J'ai passé 7 ans à l'aumônerie de Rangueil. 7 très belles années, une très belle mission confiée par l'évêque, notre père évêque.
Alors c'est témoigner, c'est convertir Non, bien sûr, c'est écouter.
C'est accompagner, c'est visiter, c'est consoler. C'est quelquefois simplement être là. Dans le silence, mais un silence présent.
Surtout quand il y a la souffrance et quand il y a parfois des fins de vie.
Les accompagner, être là. Nous sommes une équipe. Et donc, il y avait toujours, à l'époque, un prêtre et des équipes, les équipiers de l'aumônerie, des bénévoles. On n'est pas seul, c'est en église toujours.
Et rappelez que c'est à la fois une mission du diocèse, une mission, oui, de l'évêque ou de l'archevêque, mais c'est aussi reconnu par l'État dans notre société laïque, puisqu'il y a des lieux d'enfermement, comme la prison ou l'hôpital, et parfois certains lycées, quand il y a un internat, qui donne l'autorisation, loi 1905, n'est-ce pas?
C'est ça. La loi de 1905 prévoit la liberté, pour garantir la liberté de culte, dans les lieux où ce n'est difficilement possible. D'où dans l'armée, il y a l'aumônier des armées, l'aumônier des prisons, l'aumônerie de l'hôpital, qui est un service à part entière de l'hôpital. Nous sommes en blouse blanche, reconnus comme tels et attendus. Oui, nous sommes. On voit que l'aumônerie est attendue.
C'est pour ça que vous avez choisi une image qui est, oui, sur le site où on peut réécouter notre entretien. Vous pouvez nous l'expliquer, c'est Jésus qui descend vers le lépreux et il y a les apôtres derrière et la foule.
Voilà, il y a un très beau mouvement, c'est dans un beau mouvement et on voit les yeux, c'est comme une icône, vous savez, ces yeux qui sont contemplatifs, c'est des yeux... Oui, qui contemple. Et je peux dire qu'on voit le lépreux, il ose lever les yeux vers le Seigneur. Il demande par ses yeux. Et moi, j'avais entendu, c'est ça, mais que veux-tu? Que désires-tu? Et le Seigneur le sent. Hein, il sent.
Cette enluminure, elle est à Montaudran.
Non, elle n'est pas à Montaudran, mais je l'avais choisie pour la journée de la pastorale de la santé. La journée de la santé qui est au mois de février, début février.
Ça tombe bien.
Pour les fêtes, à Lourdes. Et en rapport avec Sainte Bernadette, hein, les apparitions.
Vous allez nous en parler tout à l'heure, après la pause que vous avez choisie également, de Jean-Jacques Goldman. Et là, c'est en anglais, mais aussi en parole.
Je te donne, c'est vraiment ça, tout. Écoutez bien, toutes les paroles sont superbes. Et la musique entraînante.
Ah. I can give you a voice bred with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry your thoughts in the songs we sing.
Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences. Tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux.
I can give you the force of my ancestral pride. The will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day.
Je te donne nos doutes et notre indicible espoir. Les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brûlées. Ce que je vaux.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Et ce soir, avec Marie-Christine Jacquelin, vous êtes anciennement épouse d'agriculteur, infirmier, et vous avez vécu votre foi dans différents lieux d'église. Nous avons parlé des chrétiens de l'enseignement public. Vous êtes aussi secrétaire et vous vous êtes aussi engagé dernièrement dans les funérailles. Mais revenons à ce chant. Je te donne ma voix. Je te donne l'écoute que ce que vous avez fait dans les hôpitaux.
Je crois que c'est tout un chacun. C'est pas réservé à quelques-uns. Et vous voyez, la preuve, c'est que Jean-Jacques Goldman le chante. Et c'est pour tout le monde. Et donner ces différences, pour moi, c'est très important de donner ces différences. C'est-à-dire construire des ponts entre les gens, même, et y compris dans l'Église, entre les différents mouvements d'Église, entre les différents... Oui, tout ce qui existe. Et c'est beau parce que cela permet un enrichissement mutuel.
Les différences nous enrichissent. Et alors, un des engagements que vous avez actuellement, ce sont les funérailles.
Je l'ai eu plus exactement. Après 7 ans à Rangueil, à l'hôpital l'aumônerie de Rangueil, l'évêque encore a confié à une équipe d'accompagnement des familles en deuil au crématorium. Ça a été encore une très très belle mission qui fait peur à certains et pourtant, vous savez... les personnes qui sont là, qui viennent nous voir, eh bien, nous leur faisons du bien et elles attendent vraiment quelque chose. Et c'est très beau de voir cheminer, de voir des personnes pouvoir s'apaiser.
Ce sont l'importance de la famille. Et comme vous disiez, on n'est jamais envoyé seul. On est envoyé. Jésus nous envoie deux par deux. Ce n'est pas notre tâche. C'est le royaume de Dieu qui se construit à travers nous. Ce n'est pas notre action. Mais c'est l'action de la prière et oui. L'action du groupe en Église.
De même, toutes ces missions sont nourries, comme la famille aussi, le foyer, sont nourries par la prière et la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle doit se partager, elle est vivante, elle court, et elle n'est vivante que si nous la partageons. Et si, voilà, si nous la regardons ensemble, dans la paroisse, dans les différents mouvements, dans nos différents lieux de vie.
C'est pour ça aussi que vous nous aviez apporté une prière, celle de Mère Teresa, qui est intitulée « Jour après jour ». Et c'est pour indiquer comment cet amour s'incarne. Je peux commencer à lire et nous allons la dialoguer ensemble. Ne vous imaginez pas que l'amour, pour être vrai, doit être extraordinaire.
Ce dont on a besoin,
c'est de continuer à aimer.
Comment une lampe
brille-t-elle si ce n'est par
l'apport continuel de petites gouttes d'huile? Qu'il n'y ait plus de gouttes d'huile, il n'y aura plus de lumière.
Et l'époux dira,
je ne te connais pas. Mes amis, mais que sont ces petites gouttes d'huile dans nos lampes?
Elles sont ces petites choses de la vie de tous les jours, la joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l'humilité et la patience. Simplement aussi une pensée pour les autres, notre manière de faire silence, d'écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d'agir.
Voilà les véritables petites gouttes d'amour.
Celles qui font brûler toute une vie flamme. C'est donc Mère Teresa dans ce poème « Jour après jour ».
Et Mère Teresa rajoute « Mais ne cherchez donc pas Dieu, Jésus, au loin. Il n'est pas que là-bas. Il est là, en vous. Entretenez bien votre lampe. Et alors vous le verrez. »
Et ça nous fait penser à cette parabole des vierges sages qui ont pris une provision d'huile. On peut penser à la prière et ces vierges folles qui pensent qu'elles arriveront de toute façon et qu'elles mettent leur confiance en elles-mêmes.
Mais moi j'y vois aussi cette spiritualité des petits pas, cette spiritualité du quotidien. Notre conseiller spirituel des équipes Notre-Dame nous invite toujours au petit pas, au progrès petit. Ne cherchons pas des grandes choses. Jésus est là, à chaque instant.
Et en même temps, vous me disiez que vous n'étiez pas toujours entièrement à l'aise dans le culte ou dans des paroisses et que parfois vous êtes un peu nomade. Vous aimez d'abord chanter, danser, comme on a vu avec M. Cohen et comme d'autres nous l'ont dit.
En cette période de pandémie, je peux vous dire que je suis très ravie de chanter à l'église, puisque je suis privée de chorale. Voilà. Et plus simplement, c'est parce que, vous voyez, à la campagne, on a été obligé d'aller dans différentes paroisses. Donc ici, ça ne nous dérange pas d'aller d'une paroisse à l'autre selon. Mais nous sommes quand même ancrés, c'est quand même bien, c'est quand même de faire communauté. On ne peut pas tout le temps bouger, donc d'en avoir une communauté où il y a tout le monde qui est là, tout le monde qui est reçu, voilà.
Et puis il y a des croyants étrangers qui viennent d'autres continents et qui nous apprennent aussi d'autres formes de culte. Il y a aussi tous les mouvements charismatiques qui font que l'Église est très diverse.
C'est ça.
Là encore, quand vous dites écouter, accepter l'autre dans sa différence. Et puis, vous avez aussi un sens de la joie.
Voilà, donc je continue à être dans le monde de la santé, plutôt institutionnel, plutôt dans la vie. Ce n'est plus une mission d'église. J'appartiens quand même aux associations familiales catholiques et depuis la première manifestation pour les lois bioéthiques, j'ai reçu là encore un appel. Il y a des places pour représentants des usagers dans les établissements de santé. Et les représentants des usagers, nous veillons en tant que famille au parcours du patient, à ce que les familles soient entendues dans les établissements de santé. Je suis dans deux cliniques. Et avec la pandémie, évidemment, nous avons eu beaucoup à nous investir, à écouter. C'était quand même difficile. Et encore, Nous travaillons pour les EHPAD, pour que rétablir souvent la relation entre les familles et les établissements, quand chaque fois que cela est nécessaire. Et donc avec l'espace régional d'éthique, France Asso Santé et l'Agence régionale de santé, il y a une cellule d'écoute qui existe, qui a été mise au point et qu'on pourra vous communiquer à Radio Présence. Ça s'appelle le service d'accompagnement, d'écoute et de réflexion éthique.
J'aime bien que vous évoquiez ERE, l'espace régional, parce que dans les établissements publics de santé, la notion de spiritualité ou de religion pose problème pour certaines personnes par rapport à la laïcité. On a évoqué tout à l'heure l'importance et la reconnaissance des aumôniers. Mais aussi, il y a toute une série de colloques, de débats pour savoir c'est quoi la spiritualité. Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est la poésie, la gratuité? Et donc, c'est un point fort qu'on mérite de développer. Et maintenant, vous avez aussi apporté un poème sur la joie.
Ce que j'aurais aimé, c'est dire ce que les fruits, je recueille comme fruits de cette vie de prière, de foi qui est la mienne. Cette découverte, c'était d'ailleurs avec une retraite avec les équipes Notre-Dame à Assise. La joie profonde, la joie parfaite dont parle Jésus, pour que votre joie soit parfaite et que ma joie demeure en vous. Cette joie parfaite, elle traverse les épreuves. Elle traverse les soucis. Elle demeure parce qu'elle est au fond, dans le fond. Élie Tabassé, qui est pasteur, de son côté, parle de joie imprenable. Cette joie que personne ne peut nous ravir, parce que nous savons qu'au fond de nous, le Seigneur est là, présent, et qu'il nous donne sa joie pour avancer au quotidien, et qu'il nous attend, et que la joie est là.
C'est aussi, je pense, ce que peut nous apporter la fraternité. Nous savons que le pape François, quand il écrit « Fratelli tutti », évoque que ce n'est pas seulement une question de morale, ce n'est pas aussi une question concernant des débats de société extrêmement importants, comme l'accueil des migrants ou la guerre juste ou bonne, mais c'est aussi cet amour fraternel. Il appelle la simplicité et la joie qui inspirent l'écriture de cette encyclique. Et c'est étonnant que le pape parle à la première personne. L'évêque de Rome, qui ne parle pas que pour les catholiques ou les chrétiens du monde entier, eh bien, il parle de sa propre trajectoire, cet épisode de sa vie qui se révèle dans son cœur. Et c'est ce que vous nous apportez à travers toute votre trajectoire, la diversité de vos instants de vie.
Voilà.
Eh bien, écoutez, oui, un mot peut-être pour conclure.
Je terminerai par la contemplation comme agriculteur, mais de l'univers, de la nature. Avec la Laudato si, nous savons que nous faisons partie de cet univers et que nous en sommes les gardiens. Et c'est très beau et nous aimons faire admirer tout ça à nos petits-enfants.
D'ailleurs, vous aviez proposé aussi comme votre moment de mélodie Jean-Sébastien Bach et comment à la fois la passion de Matthieu ou la passion que les évangélistes nous ont rapportée peut donner lieu à des moments d'intense spiritualité et d'intense beauté. Merci Marie-Christine pour votre témoignage, pour votre foi. Et puis, continuons ensemble pour la construction du royaume de Dieu. Il nous appelle.
Merci.